CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Et bonjour à tous, c'est bien l'heure du MAG. Et aujourd'hui, on continuera le feuilleton de Rémi Torroella sur le nouveau livre de Roger Cavaillé, L'école des chagrins. On parlera aussi du répertoire du geste, un programme mis en place par la Chambre des métiers du Tarn-et-Garonne qui filme les gestes des artisans et les indexe par outils, matières et actions. C'est Maxime Thiébaud, plasticien numérique, qui va nous en parler en compagnie de Bruno Monpère, le directeur de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn-et-Garonne. Mais pour tout de suite, une brocante. Pour fêter la fête des mères, c'est à Saint-Antonin-de-Bleval et c'est ce dimanche.
La vie des pays, au son de la pop et du rock en Tarn-et-Garonne. La vie des pays, CFM.
Et c'est plus ou moins le printemps, même si on se demande des fois. En tout cas, c'est la saison des brocantes et des vignes greniers qui revient. Là, en l'occurrence, du côté de Saint-Antonin-Nobleval, c'est ce dimanche que ça se passe. Dimanche 27 mai, c'est à la place des Moines et c'est une brocante qui est organisée par l'association Côté Nobleval, dont la présidente est avec nous aujourd'hui. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Et vous êtes venue avec vos bénévoles, deux, donc, à l'initiative de cette brocante, Frédéric Linares. Bonjour.
Bonjour.
Avec Christine Caz. Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi cette brocante? Comment ça va se passer? Ce sont que des professionnels, je crois.
Alors oui, c'est une brocante de professionnels qui aura lieu Place des Moines le 27 mai de 8h à 18h pour le public. Et c'est exclusivement des brocanteurs et marchands professionnels. Il n'y a pas de copie, c'est pas un vide-grenier, c'est vraiment du professionnel avec de très beaux produits et... Donc intéressant pour la Chine, pour les amateurs d'objets un peu rares.
C'est ça la caractéristique des brocantes professionnelles, en fait, c'est qu'il n'y a pas de copie ni de...
C'est la loi. Il n'y a pas de copie et il ne doit pas y avoir de produits neufs et pas de non-professionnels.
Ça se passe donc sur la place des Moines.
Place des Moines, oui, Place des Moines.
Nouvellement bien structurée.
Que la mairie nous a redamée, remise à niveau et à côté de la place des Termes, à côté des Termes. Salle des fêtes, donc très bel endroit en bordure d'Aveyron. Ça sera le jour du marché aussi, donc il y aura pas mal de monde. Il y aura des points de restauration, une buvette, donc ça va être une journée sympathique, je pense.
C'est une manifestation qui est organisée par l'association Côté Nobleval. Est-ce que je peux en profiter pour prendre de vos nouvelles dans l'association ?
Ben, ça va très bien. Dans l'association, on vient de terminer Jardin Nobleval. Donc ça, c'était l'avant-dernier dimanche d'avril. Ça a été une réussite puisqu'on a eu la chance d'avoir un temps formidable en plus. On estime qu'il y a eu environ 3000 personnes qui sont passées sur cette manifestation. Donc on est très contents.
Ça marche bien là dans l'association. L'association, vous faites bouger Saint-Antonin-Nobleval et les alentours. Votre association, c'est une association de commerçants, mais pas que.
Mais pas que. On va pas refaire tout l'historique de l'association, mais effectivement, il y a aussi au sein de cette association des gens qui sont des passionnés par Saint-Antonin et qui ont envie de faire vivre le village et donc qui soutiennent les artisans commerçants de ce collectif.
Et justement, ces brocanteurs qui viennent sont Saint-Antoninois ?
Non, non, non.
Partout, il y a des brocanteurs de l'Aveyron, du Tarn-et-Garonne, du Tarn. On est quand même un département limitrophe. Enfin, Saint-Antonin est très près de tout. Donc voilà, c'est un petit peu des marchands locaux. Et justement, il reste encore quelques places. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de participer ce jour-là à cette manifestation du 27 mai. Donc le contact, c'est Christine Caz, 06 87 54 13 47. Ou le Facebook de l'association.
Côté Nobleval. Ou le site internet côté-nobleval.org.
On rappelle aussi simplement que le 27 mai, ça sera le dimanche de la fête des mères. Donc, il y a un point restauration sur la brocante, un point buvette. Ça peut faire une belle journée pour
et de
dénicher.
De quoi faire plein de cadeaux.
Voilà, dénicher des cadeaux pour les mamans.
Pour ceux qui sont à la bourre quand même.
Et profiter du beau temps et de l'espace.
Merci beaucoup, tous les trois.
Merci à vous.
À dimanche.
À dimanche, alors.
On se retrouve dans deux minutes pour parler du répertoire du geste de la Chambre des métiers du Tarn-et-Garonne.
CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Le feuilleton avec la Chambre des métiers et les artisans du Tarn-et-Garonne, c'est la troisième partie et aujourd'hui on va parler du programme répertoire du geste, toujours en compagnie du directeur de la Chambre des métiers, Bruno Monpère, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes venu avec Maxime Thiébaud, bonjour Maxime.
Bonjour.
Vous êtes plasticien numérique de l'association Artisans Numériques. Mais qu'est-ce que donc ce répertoire du geste ?
Le répertoire du geste, c'est un programme qu'on a mis en place avec la Chambre des métiers, moi en tant que chercheur, salarié-chercheur, en 2012, qui vise assez concrètement, je vais l'expliquer assez concrètement, à aller filmer les artisans dans les ateliers, chantiers, laboratoires, de travailler des capsules de gestes qui sont des rendus audiovisuels de pratiques gestuelles indexées par action outil matière.
Alors, plein d'outils,
par les termes
de...
Oui. Par les termes d'action, des termes d'outils et de matière qui sont référencés en fait dans un répertoire et qui sont définis par une séquence vidéo.
Ce sont les index, les indexations, les entrées action outil matière qui déterminent le début et la fin d'une séquence. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de faire une encyclopédie du geste.
Vous allez voir le boucher, par exemple, ou le tailleur de pierre, vous l'observez, vous décryptez son geste et vous cherchez à le rendre public ?
Non, pas spécifiquement le rendre public. Le médiatiser, le patrimonialiser, le projeter vers les champs numériques, là en l'occurrence, puisqu'il s'agit du répertoire numérique du geste artisanal. Le rendre public, d'une part, si l'artisan le veut, et en même temps, effectivement, la possibilité donc d'être archivé dans une base de données qui est d'images, de fichiers, 2D, 3D, que l'on peut retrouver donc sur rnga.fr et qui est classé selon les index dont parlait Maxime, c'est-à-dire par action, outil, matière, et ces entrées étant influencées par les travaux d'anthropologues des métiers. C'est une méthode que l'on a repris à notre compte pour classer en fait ces gestes tel un classement encyclopédique, tout comme cela avait été fait par Diderot et d'Alembert, tout à fait modestement la comparaison, donc au siècle des Lumières.
Alors, excusez-moi, je ne veux pas être blessante, hein, mais à quoi ça sert ?
Le répertoire du geste en soi, il ne sert à rien. Et en même temps, il sert à une patrimonialisation, à de nouvelles modifications de pédagogie, à de nouveaux dispositifs et vecteurs de communication. Donc à une nouvelle médiatisation sur des métiers que l'on pourrait croire et craindre, pour certains, peut-être même pour tous, de voir disparaître dans une grande digitalisation du monde.
Mais c'est marrant que vous fassiez ça en parallèle avec, avec le numérique. Hein.
Mais justement, et il s'agissait justement face au tsunami du numérique, les métiers qui sont considérés comme des vieux métiers, ou des métiers ordinaires, ou des métiers... grosso modo sur lesquels on pourrait considérer qu'une époque uniquement portée sur l'accélération vers une accélération, vers un tout numérique, pourrait totalement se désintéresser. On a trouvé très intéressant d'organiser une sorte de Big Bang et d'accompagner en même temps les artisans vers des mutations, en assurant d'abord la promotion, puis des outils de patrimonialisation, donc d'enregistrement de leur savoir-faire. Parce qu'on a l'impression qu'on ne perdra jamais ce qui relève de notre quotidien et ce qui nous entoure. Mais en réalité, l'absence de regard sur ce quotidien est le principal risque de la perdition de ces savoir-faire. De la perte de savoir-faire, pardon. Et d'autre part, la façon dont on pense, peut penser des nouveaux modèles pédagogiques, puisque nous avons justement utilisé le répertoire du geste comme outil méthodologique d'enregistrement des gestes et de classification des gestes par les apprentis.
Dont les étudiants peuvent se resservir.
Alors il y a plusieurs choses en fait. D'une part, ils peuvent se resservir ou s'inspirer des gestes qui ont été enregistrés, donc on appelle capsule de gestes. Encore une fois, quand il y a action, outil, matière, on parle d'une capsule. Et aussi la méthodologie en fait sert aux apprentis du CFA dans un programme qui s'appelle Apprenti Numérique, qui permet à ces jeunes-là de se mettre eux-mêmes à la place de l'artisan et de s'entraîner à faire ce travail de collecte de gestes professionnels. Donc comment ça s'enregistre, ça peut être un travail pour eux, pour la suite, en termes de communication, de prise de conscience de sa propre compétence, de son propre savoir-faire. Donc c'est une mise à disposition de la méthodologie du répertoire du geste vers ces jeunes générations qui pratiquent les métiers. C'est une autre approche que celle de la licence artisan designer, mais elle n'est pas non plus éloignée parce qu'il y a une forme de sensibilisation de jeunes artisans apprentis vers le numérique, vers des méthodologies qui peuvent les intéresser professionnellement. comme on le retrouve dans une licence 3 artisan designer, où ils ont une approche plus orientée peut-être numérique au début, et on va les ramener vers la conscience métier et les enjeux qui sont derrière.
Et qu'est-ce qu'ils en pensent, les artisans eux-mêmes, que vous allez filmer ? Ils doivent se dire, mais ça sert à rien ?
Ben, si vous voulez, il y a quand même cette forme de surprise d'un côté, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a des caméras et quelques personnes qui viennent observer leurs gestes de près à ce point-là. En même temps que c'est pour eux une forme de reconnaissance, je crois, parce que justement, c'est pas souvent que des gens rentrent dans l'atelier, se portent cette curiosité et sur des métiers, je parle pas uniquement là du coup des métiers d'art, mais sur des métiers de boucher, de boulanger, de maçon, charpentier, tailleur de pierre, enfin on a fait un peu un large champ de métiers. Il y a quand même cette idée du regard, de l'intérêt porté à leur savoir, qui est assez rare au final, ou qui l'est des fois, mais sur des petites manifestations, enfin sur des manifestations de courte durée. Là, c'est porté directement vers leur atelier, vers leur ensemble de pratiques, et vers leur vocabulaire métier, leurs outils, toutes leurs compétences en fait. Donc ils sont pas, en général, ils ne sont pas opposés au répertoire, au contraire, surtout qu'ils savent quelque part quelle est la portée en fait au niveau de la transmission d'un projet comme celui-ci. Et ce n'est pas non plus dans un vol
des compétences.
D'un protocole de fabrication, d'un processus complet. On vient filmer des capsules de gestes qui sont des très courtes séquences de gestes qui permettent de titrer le geste comme chanfreiner, déligner, tronçonner. Mais on ne va pas montrer tout le processus de fabrication d'un objet. Voilà. Donc à ce niveau-là, ils ont pas non plus cette crainte-là en particulier.
Oui, parce que la capsule, justement, c'est l'anti-tuto. C'est pas du tout le tuto YouTube. C'est au contraire une séquence qu'on a voulu technique, extrêmement portée uniquement sur le mouvement, sur le geste et sur l'outil.
Mais ça en devient presque artistique, en fait, de votre part.
On essaie de le présenter d'abord sur rnga.fr, justement, on le présente d'abord comme une base très technique, de ressources, vraiment, d'entrée par les termes métiers, avant toute chose. Et bien évidemment, le répertoire est numérique. Les fichiers peuvent être travaillés, comme le fait Maxime, par exemple, dans le cas des dispositifs de vidéo mapping, où il va utiliser ces capsules comme ressources et comme contenu dans le cas de dispositifs patrimoniaux, culturels, voilà, d'animation scénographique ou même muséographique, puisque on en a eu quelques-unes.
Oui, c'est dans le but aussi de la valorisation des territoires, des savoir-faire de proximité, la vidéoprojection, le vidéomapping, ce qu'on a fait du coup la semaine dernière à Quélus.
Jeudi dernier
à Quélus avec les jeunes L3 Pro Artisan Designer. C'est aussi ça en fait, c'est ramener le patrimoine de savoir-faire au cœur de la commune ou de la ville en utilisant justement les capsules de gestes très techniques, mais travailler esthétiquement et projeté sur un patrimoine matériel de la ville qui permet une articulation assez forte et une présence des métiers dans un territoire.
On vous retrouve demain, Maxime Thiébaud, pour parler de ce vidéomapping que vous mentionniez aujourd'hui. À demain.
À demain.
Au revoir.
C'était jeudi dernier que la Chambre des métiers organisait un workshop sur le thème de la fibre. C'était au Fab Lab de Quélus que ça se passait et c'était à destination des étudiants en L3 pro artisan designer à qui j'ai donc posé des questions. Concrètement, ils ont fait quoi ?
Alors, je m'appelle Rémi Munier et je suis artisan designer en spécialiste en verre.
Qu'est-ce que vous avez fait toute cette semaine ?
On a travaillé autour des plantes rudérales. Et avec un ami, on a travaillé sur un jeu de sensibilisation autour des plantes. Alors l'objectif, c'est de sensibiliser aux plantes qui sont envahissantes et aux plantes qui sont vivaces et qui sont déjà présentes dans nos rues. Et l'idée, c'est de sensibiliser par un jeu où c'est que les plantes invasives vont venir attaquer un terrain, donc le terrain de Quélus, et les plantes rudérales doivent se protéger.
C'est quoi le rapport avec l'artisanat et le design ?
Alors le rapport, c'est que nous, dans notre recherche autour de notre travail, c'est de sensibiliser avant tout, déjà par les machines numériques et par un savoir-faire artisanal. Donc le but, c'était d'allier tout un jeu de plateforme qui est fait à la main par un savoir-faire artisanal et par des machines numériques, et de l'associer en fait sur une sensibilisation autour des plantes et de la ville.
Merci beaucoup.
De rien.
Instant musical auditif, c'est maintenant, avant de retrouver Rémi Toruella et Roger Cavaillé, l'auteur de « L'école des chagrins » ou la description saisissante de la vie des instituteurs de campagne au milieu du siècle dernier, mais aussi et surtout la suite des histoires d'amour de son personnage Julien. À tout de suite. Hold on. Oh. Hold on.
Well, it's all understood that you're no good for me. Smile. It seems that you'd agree. You've got a fire in your eyes I've never seen before. Something burning up inside you that I would like to explore. Just hold on, hold on. Just one more dance with me. Hold on, hold on to all this mystery. Hold on. Burning up inside, I would like just one touch, enough to make you blush. I think you lost your mind, but it's not enough. It's just some crush that makes you feel inclined to hold on, hold on. We're burning up the light we've only got tonight.
Le MAG, tous les jours, 17h-17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Le feuilleton cette semaine dans le MAG du Tarn-et-Garonne se fait autour de Roger Cavaillé, auteur de L'école des chagrins, un roman paru aux éditions Deboré, troisième du triptyque Le Vieux Cartable, Julien l'Insoumis et enfin L'école des chagrins. Monsieur le professeur, on dit un triptyque ?
Oui.
Ouais, bon, alors ça va.
Plutôt pour la peinture,
mais, c'est pour
mais ça.
Ça
passe aussi pour le...
je me disais bien que j'avais...
c'est plutôt trilogie, mais on admet triptyque.
Un barbarisme ou quelque chose comme ça, non?
Non, non, on admet, c'est admis.
Merci d'être avec nous pour parler de votre dernier roman.
Merci, Rémi.
Je vais lire un petit extrait de la quatrième de couve que je vous demande de commenter aujourd'hui.
Oui.
C'est un crocodile, répète Julien, avant d'ajouter « Comment se nomme cet animal, Blaise ?» Toujours souriant et apparemment attentif, l'enfant ne réagit pas. Abrité derrière un faux semblant de convenance, les pensées de Blaise ont délaissé la classe. Le maître, la gravure et son reptile pour s'évader vers un univers personnel où l'imaginaire musarde, affranchi de toute contrainte scolaire. En douceur, Julien s'emploie à faire redescendre le jeune rêveur sur terre, et plus précisément dans la classe, parmi ses copains d'école. « Bienvenue chez nous, Blaise, tu m'entends ?»« Oui, monsieur, » répond l'enfant en redressant son corps. « Alors, Blaise, quel est le nom de ce gros lézard ?»«
Ah monsieur, j'ai oublié, mais si vous me le dites, je m'en rappellerai.
Oui, oui, c'était un enfant, c'était l'enfant, le petit-fils du maire de la commune. Et le grand-père m'avait dit, vous savez, hein, il n'est pas très futé, vous n'en tirerez pas grand-chose. En fait, c'était un enfant très rêveur et qui s'évadait de la classe à tout bout de champ. Et ce jour-là, c'est ce qui lui était arrivé. Ce qui trompait chez lui, ce qui me trompait quand je l'observais, c'est qu'il avait toujours l'air très attentif. Il me regardait avec ses grands yeux bleus et j'avais l'impression qu'il avalait mes paroles et qu'il intégrait tout ce que je lui disais. Tellement que j'ai fini par être sceptique et me dire il faudrait quand même que je vérifie parce que il me semble qu'il est en train d'adopter une pose un peu théâtrale. Donc là, je le surprends en plein imaginaire. Il s'était évadé de la classe et donc gentiment je l'ai ramené parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait quand même laisser aux enfants le loisir de rêver. Oui. C'est une richesse qui est incomparable et on n'a pas le droit de tarir la rêverie chez les enfants. Donc, il faut les intéresser au travail de classe, mais savoir aussi quelquefois relâcher un peu de façon à ce qu'ils puissent s'évader, et quitte à les ramener ensuite dans le bercail avec les autres élèves.
Le livre s'appelle L'école des chagrins. Pourquoi ? Parce que cet alors, enfant-là, il allait à l'école justement oui, alors, avec peine un peu peut-être ?
Non, 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 c'est en fait une classe unique dans un petit village du Lot-et-Garonne, sur les coteaux près de Preissas. Et il y avait un enfant, fils d'immigrés polonais, avec de grands yeux bleus, une tête toute blonde, un petit chérubin, qui quelquefois, en arrivant à l'école, faisait dans sa culotte. Donc l'instituteur le confiait à son épouse, qui n'était pas dans l'enseignement, afin que bon, elle le remette en état de suivre la classe. Et elle lui offrait un petit chocolat et il revenait ensuite dans la classe. Seulement, il avait pris l'habitude.
Le chocolat, c'est très mal. Quand
il avait même tellement pris l'habitude que lorsqu'il faisait pas dans son pantalon, il lui arrivait d'aller au lavabo, de se mouiller la culotte et de revenir en disant « Madame !» Et il était très attachant. Et chaque matin, ou presque chaque matin, il apportait, en venant à l'école, un petit bouquet qu'il recueillait sur le chemin. Alors souvent, c'était des lilas, la période des lilas. Et le couple qui est dans l'école, l'instituteur et son épouse, vont, au bout d'une année, partir, puisque l'instituteur va faire son service militaire. Et l'enfant, lorsqu'il apprend que le couple va partir, il éprouve un énorme chagrin et il éclate en sanglots, il n'arrête plus de pleurer. Et il pleure sur son bouquet de lilas. Et du bouquet de lilas, perle des larmes qui tombent sur le sol. Et la femme de l'instituteur lui dit, écoute, arrête, tu vois bien que tu fais pleurer les lilas. Donc le titre qu'on avait imaginé, c'était l'enfant qui fait pleurer les lilas, mais on a préféré qu'il soit plus court et le condenser dans l'école des chagrins. Voilà.
Et l'école des chagrins, c'est le roman que vous nous présentez tout au long de cette semaine, Roger Cavalier, oui. Que vous venez d'écrire et qui est aux éditions de Boré.
Oui, c'est mon éditeur fétiche.
Merci, à
c'est
demain.
Demain, c'est un très bon éditeur et je reste fidèle.
On en reparle demain.
Merci.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Tarn-et-Garonne. La vie des pays, CFM.